La masterclass de Bertrand Tavernier avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Bertrand Tavernier avec le public présent ce jour au cinéma Gaumont-Doc-Vauban au Havre dans le cadre du festival Le Goût des Autres avec les auditrices et auditeurs de France Culture. Peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Bertrand Tavernier, pour dire que vous êtes né à Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale, que votre père, René Tavernier, poète, journaliste, a été une figure importante de la Résistance. Comme vous le racontez dans Voyage à travers le cinéma français, vous avez été assistant réalisateur, attaché de presse, critique, avant de passer vous-même à la réalisation avec L'Horloger de Saint-Paul, film qui marque le début d'une longue collaboration avec Philippe Noiret, que vous retrouvez d'ailleurs l'année suivante pour le second film, Que la fête commence, qui vous vaut le César du meilleur réalisateur, ainsi que le César du meilleur scénario original, César aussi du meilleur acteur dans un second rôle pour Jean Rochefort. Alors si j'ai bien compté, mais bon, faut toujours se méfier, je crois que vous avez réalisé 27 longs métrages, fiction et documentaire. Est-ce que c'est le...
Je les compte pas, je suis incapable.
Bon,
je...
bon bah alors on dira que c'est 27.
Oui, j'accepte ce chiffre. D'abord,
va,
il bon. Est bien.
Il est pas
bien.
Mal. Hein.
Il est
pas mal.
C'est bien, il est divisible par 3 et par 9, ce qui est très bien.
Bon, alors vous avez signé aussi 7 scénarios réalisé oui. par d'autres que vous. Oui. Dire aussi quand même que vous avez publié en 1970 avec Jean-Pierre Courson-Dorn 30 ans de cinéma américain, ouvrage régulièrement mis à jour par vos soins. Alors aujourd'hui, on consulte régulièrement 50 ans de cinéma américain. Il y a quelque temps, vous annonciez 70 ans de cinéma américain.
Ça va devenir 100 ans, hélas.
Hélas. 70, c'est... ça va venir ou vous passez
directement? Non, 70, on le passe à la trappe, on passe directement à 100.
Bon, très bien.
Là.
Ça va venir alors?
Oui, c'est en train, c'est un travail épouvantable. C'est terrible.
On s'en réjouit pour nous, moins oui. pour vous. Alors peut-être ouvrir maintenant véritablement cette masterclass Bertrand Tavernier avec une première question. Fils d'écrivain, fréquentant les écrivains, sensibilisé au monde de l'art, qu'est-ce qui vous a fait choisir le cinéma plutôt qu'une autre forme d'art?
Bonne question. Peut-être justement pour me démarquer de mon père. Peut-être parce que je vivais dans un monde où on me parlait tout le temps des écrivains. Et mon père, là-dessus, a joué un rôle énorme parce que il m'a fait découvrir énormément d'auteurs. Car il avait un éclectisme extraordinaire. Il pouvait aussi bien tout à fait insister que je lise les romanciers les plus importants de l'époque, que Tolstoï, que Dostoïevski, mais et aussi Dumas. Il me disait, il faut relire... lui, il le faisait, il relisait pratiquement tous les 2 ans, il relisait le Comte de Monte-Cristo. Il disait qu'il y avait... Il y avait toujours des choses à apprendre. Et les Trois Mousquetaires, il trouvait que c'était un roman totalement fondateur. Donc il m'a donné le goût de Dumas. Très tôt, de Hugo, de certains poètes aussi, très fort, qui étaient des gens qui étaient souvent ses amis. Alors je baignais dans ça, je baignais dans les anecdotes familiales qui étaient liées tout le moment où ma famille, mon père et ma mère avaient caché Aragon. Et Elsa triolait, et que ma mère racontait que Elsa avait été très jalouse quand Aragon avait dédié Il n'y a pas d'amour heureux à ma mère. Ça avait fait une crise de jalousie. Et mon père me racontait qu'Aragon était terrible quand il lisait ses poèmes, qu'il les déclamait de manière absolument ostentatoire. Et il me racontait des moments formidables, comme le dîner qu'il avait organisé avec mon parrain, qui était aussi dans la Résistance, Auguste Anglès, quelqu'un que... Je crois formidable, qui a écrit une thèse sur les débuts de la Revue Blanche et de Gallimard. Et ils avaient organisé, dans les premiers jours de la Libération, un dîner entre Aragon et Claudel.
J'aurais aimé être là.
Oui, qui avait eu cette idée, je ne sais pas. Mais mon père avait des rapports à ce avec Claudel et il m'a toujours dit, avant de se moquer de Claudel, il faut se souvenir que ça a été peut-être le seul écrivain qui a pris une position publique contre la déportation des enfants juifs. Il a, avec un texte admirable qu'il avait envoyé au cardinal Gerlier, je crois. Il ne faut pas que Israël, enfant aîné de la promesse, le devienne de la douleur. Il dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ont pris une position aussi forte contre la déportation, justement, des enfants. Et donc ce dîner a eu lieu, et il me racontait que le début avait été glacial. C'était terrible. Et puis tout d'un coup, quelqu'un, est-ce que c'est Auguste Anglès, est-ce que c'est mon père, a prononcé, pourquoi, le nom de Gide. Et d'un seul coup, tout a changé. Ils se sont levés d'un commun accord, Aragon, et ils se sont embrassés, se réconciliant comme ça sur le dos de Gide. Dans une haine mutuelle, l'un, Aragon, n'ayant jamais pardonné, retour du RSS, que je viens de relire et qui est un livre formidable. Formidable, ce livre. Et de voir le torrent de haine que ça a déclenché à l'époque, mais c'est un livre absolument, absolument magnifique et très, très actuel. Hein, c'est que par rapport à la dictature d'une certaine idéologie, que je vois ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retenir. D'un côté, il y avait Aragon, et de l'autre côté, Gide, qui détestait l'homosexuel, le protestant, là, qui haïssait. Donc là, la réconciliation a été totale, le dîner est devenu très chaleureux. Et on peut noter que quelques jours après ce dîner, enfin une semaine ou 15 jours après ce dîner, Claudel réécrit dans les lettres françaises. Et d'un seul coup, donc, c'est son passeport pour une exonération totale.
Alors c'était peut-être une bonne question, mais vous n'y avez pas du tout répondu.
Mais, non,
pourquoi,
non, mais
pourquoi le cinéma ?
Je baignais là-dedans et j'ai trouvé un moyen. Alors je crois que j'étais attiré, je crois physiquement par les films. J'adorais voir les films. Et d'avoir voulu rentrer dans ce monde très tôt, mais très 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 tôt. C'est une vocation qui arrive vraiment à l'âge de 13 ans, de dire je veux être metteur en scène, je veux faire... C'est aussi une manière, je crois inconsciente, pas de m'opposer, mais de me séparer, peut-être. Parce que là, je peux le coincer sur des films. Je peux pas le coincer sur des poètes ou des écrivains. Je peux le coincer, et puis c'est mon domaine à moi. Même s'il aimait beaucoup le cinéma, même si il m'emmène souvent au cinéma, surtout voir des films sur la Seconde Guerre mondiale. Et, je sais pas, j'ai vu avec lui, dans un espace très très bref, au moins 3 films sur la guerre entre américano-japonaise aux Philippines, dans les Philippines, avec le général MacArthur qui disait « je reviendrai » et tout ça et tout. Bon. Donc j'étais très tôt, j'ai 14 ans, j'avais des connaissances extrêmement fortes sur ce passage de la guerre, parce qu'il m'expliquait tous les films, le pourquoi des scènes, etc. et tout. Donc c'est un choix pour me... un peu pour me séparer, sans doute me séparer de ma famille, et puis ça devient très 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 vite une passion absolue, absolue.
Mais vous avez toujours gardé quand même une passion pour la littérature.
Absolument.
Alors, il y a une passion pour l'écriture aussi, parce que finalement, il y a quand même très peu d'adaptations de livres dans notre filmographie.
Oui.
Si on garde les 27, certes, ça commence par Simenon, mais après, ce sera seulement Jim Thompson, James Lee Burke, Pierre Bost, une nouvelle,
oui.
Madame de Lafayette, et puis une BD, Quai d'Orsay. Donc
oui.
C'est assez peu. Finalement, sur l'ensemble de la filmographie.
Non,
c'est vrai.
J'ai quand même gardé tout le temps une passion pour la littérature. Et parfois, certains projets ont commencé par être des idées d'adaptation. Par exemple, Que la fête commence, qui est un scénario original. Mais au départ, je pars sur une adaptation d'un roman de Dumas que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Une fille du régent, très peu connue. Et j'avais écrit déjà une adaptation complète. Et quand on la reprend avec Orange... Il y a un truc qui nous embête beaucoup, et qui m'embêtait, moi, dans mon adaptation, dans le livre, c'est le jeune premier et la jeune première. Le héros et l'héroïne sont très, très barbants. Comme dans beaucoup de drames romantiques, beaucoup, le théâtre romantique est la plupart du temps complètement handicapé par les héros. Et ce sont les personnages secondaires qui sont formidables. Et là, tous les personnages secondaires du livre, du marquis de Pontcallec à... l'abbé Dubois, en passant par le régent, sont passionnants. Et donc, Orange me dit, écrivons, on va lire des tas de livres sur l'époque, dès qu'on trouve un truc intéressant, on va le mettre là-dessus, et on retarde l'arrivée du héros. Et puis, à un moment, il me dit, mais oublions le livre de Dumas et écrivons ce qui nous plaît dans cette époque. Puisque tout d'un coup, on devient complètement fasciné par le personnage du régent, ce qu'on découvre, voilà. Voilà, c'est venu comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'adaptations. Et je travaillais avec quelqu'un, injustement, on a dit qu'il était un adaptateur, Orange, alors qu'il a écrit aussi énormément de scénarios originaux et des adaptations qui n'en sont pas. C'est-à-dire, quand il adapte Le mariage de Chiffon, il reste pratiquement rien de l'œuvre originale. D'ailleurs, sa théorie, c'était, il faut mieux adapter un livre qui n'est pas très bon et le détruire, là, et justement, c'est des gens à qui on a beaucoup reproché des adaptations du Rouge et le Noir, ça, qu'ils ne voulaient pas faire. C'était Lara qui insistait. Bost m'a dit, j'étais un adversaire fanatique. Je ne voulais pas qu'on adapte Stendhal. Je pensais qu'on se casserait la figure. Mais Lara avait une obsession d'essayer d'adapter tous les grands romans de la littérature. C'est lui. Et donc, on a beaucoup attaqué des scénaristes pour quelque chose qui était une des obsessions du metteur en scène. Orange disait souvent que les adaptations de romans à cette époque dans le cinéma, elles étaient dues au fait que beaucoup de producteurs ne lisent rien. Et là, un roman les impressionnait. Parce qu'ils disaient qu'il a dû être lu par d'autres avant pour qu'il soit publié. Et donc, ils étaient, étant impressionnés par un roman, ils acceptaient. Ils lisaient tellement peu que Orange m'a raconté que beaucoup de scénarios, et c'est une chose que j'ai fait une fois dans ma vie, c'est lui qui les lisait aux producteurs. Comme ça.
À ce point.
Oui, et il me disait que tous les films ils ont vendus à Deutschmeister, La traversée de Paris, entre autres. Alors Deutschmeister appelait sa secrétaire et disait « Je ne veux pas coup de téléphone ». Et il se tournait vers Orange et il disait « Maintenant, je redeviens midinette ». C'est formidable, ça. Et en tous les cas, ils écoutaient le scénario. Et il a même lu ce que j'ai découvert chez Pierre Boss, qui était le squelette du Juge et l'Assassin, c'est-à-dire une mouture de 40 pages, 50 pages. Il l'a lu à la demande de Paul Gretz à David Selznick, qui s'est endormi tout de suite. Et Orange me disait qu'il a dit à Gretz, qu'est-ce qu'on fait? Et Gretz a dit, tu continues. Donc il a lu, je dis, j'ai lu un livre à un type qui ronflait, qui s'est levé, qui a dit merci beaucoup, évidemment qui n'a pas donné suite. Voilà, c'était ça. Oui, il y a des scénarios qui sont nés très souvent, d'ailleurs par hasard, qui sont nés comme ça. Voilà.
Pour poursuivre sur l'influence des autres arts, Bertrand Tavernier, il faut évidemment parler de musique. Alors certes, il y a un film né directement de votre amour pour la musique, c'est Round Midnight, votre amour du jazz. Mais dans votre dernier film, Voyage dans le cinéma français, il y a une très grande place qui est faite aux compositeurs de musique de film. Oui. Ce que je trouve assez formidable, parce qu'effectivement, ce sont souvent les oubliés de l'histoire du cinéma.
C'est pas souvent, tout le temps.
Ce sont les oubliés. Grâce à vous, alors, on va dire.
Oui, mais encore, il reste ce qu'il faut faire est une tâche, et je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'il n'y a pas un vrai, véritable intérêt.
Il y a un énorme travail
intérêt
à faire d'édition. D'édition.
L'idée sur laquelle j'essaie de plaider au centre du cinéma, au ministère de la Culture, c'est qu'il y a dans le cinéma français au moins une quinzaine, une vingtaine de partitions qui sont, une bonne vingtaine, qui sont géniales. Il ne faut pas les refaire dans la totalité, mais qui n'ont jamais été enregistrées en disque. Jamais. Donc, il n'y a pas de partitions, donc elles ne sont pas jouées en concert, donc elles sont comme éradiquées de toute mémoire. Or, il y a des partitions de Henri Dutilleux, de Jacques Ibert, de Darius Milhaud, d'Arthur Honegger, je ne parle pas de Jaubert et de Cosma. La musique de La Grande Illusion, qui est une musique splendide, il n'y a pas de disque, elle ne peut jamais être jouée en concert. La musique de idem pour la musique de La Bête humaine. Vous n'avez pas de musique de ces films. Mais Dutilleux a écrit 4 musiques de films et ça ne fait pas partie du patrimoine national. Je trouve que là, il y a là un scandale. Martin Scorsese me disait qu'il trouvait que la plus belle musique du cinéma français, c'était Les Orgueilleux. C'est une musique de Paul Misraki. Du coup, j'ai revu le film. Et c'est vrai que le travail de Misraki est phénoménal parce que c'est à la fois une partition moderne, avec des percussions, un rythme, et c'est une partition qui, quand les personnages marchent dans les rues, est tout d'un coup troublée par la musique source qui sort des marimbas qu'on entend, ce qui est une idée incroyablement originale. Cette musique, il n'y a pas eu même le moins de 45 tours, on ne peut pas la faire passer. De même, on pourrait dire, puisque c'est un film à demi-français, que Monsieur Arkadine, autre partition inouïe de Misraki, Il n'y a aucune possibilité de la jouer. Alors voilà, c'est une bataille. On a sorti un double CD pour le voyage qui comprend la musique de Coulet et avec une chose qu'on a choisie avec Bruno Coulet et Stéphane Lerouge, un certain nombre de morceaux dont 20 étaient introuvables jusque-là. Mais au moins, ils avaient été enregistrés quelque part. On a trouvé une version de Regain dans un petit orchestre qui avait été enregistré une fois sur un disque. Ça, c'est Stéphane Lerouge qui a fait un travail formidable. De quelqu'un dans les, je crois, dans les Alpes-Maritimes qui avait enregistré. Il y avait un enregistrement là. On est arrivé aussi à trouver le générique du Salaire de la Peur qui avait été enregistré. Et vous l'écoutez, si vous achetez le livre, vous l'écoutez, vous faites un test. Je pense que 9 personnes sur 10 vous diront que c'est une musique d'Ennio Morricone. Parce qu'en 1953, Auric utilise tous les trucs qui vont de percussion, instruments ethniques, guitare sud-américaine solo, qui vont être la marque de fabrique d'Ennio Morricone.
Et pour vos propres films, Bertrand Tavernier, comment est-ce que ça se construit, la partition musicale? Est-ce que, par exemple, vous aimez qu'une la musique originale soit composée avant le film? Il faut qu'elle soit composée sur les images montées? Comment est-ce que vous procédez?
D'abord, je travaille dès le début du scénario avec un compositeur. Enfin, dans tous les cas, je lui donne à lire ce qu'on écrit, je parle avec lui, je tâtonne. Je peux avoir des idées, et puis tout d'un coup, j'attends aussi des réactions. Mais je prends ça... Et ce qui est vrai, c'est ce qui sépare complètement, on voit, ce que je montre dans le film, le cinéma français et le cinéma américain, c'est que c'est comme ça que ça se passait avec les grands cinéastes français. Ils avaient une collaboration. Il y avait une collaboration avec Jaubert, alors via Prévert, mais dès l'écriture du scénario, entre Jaubert et Vigo, entre Duvivier et tous ses compositeurs de musique. Duvivier était attaché une importance énorme à la musique, et le générique de Golgotha, le premier carton, c'est un film de Julien Duvivier, musique de Jacques Ibert. Il met Jacques Ibert comme premier carton. Mais c'est donc des gens qui viennent dès le début, avant que le tournage. René Clair, qui a travaillé plusieurs fois avec Georges Vamparis, impose à Vamparis que toutes ces mélodies partent d'une gamme descendante. Que ce sera la marque de passage du rêve de où Becker oblige Misraki, pour les Amants de Montparnasse, à travailler sur 4 notes. Il dit « je ne veux pas plus de 4 notes au départ ». Donc, c'est des gens qui travaillaient au début. Et ça, ça n'existe, à 98%, ça n'existe pas dans le cinéma américain, où les musiciens étaient nommés par le studio, où parfois, ils rencontraient à peine le metteur en scène, et très souvent, les metteurs en scène de série, en tous les cas, n'avaient même pas le droit d'aller au mixage, jusque dans les années, au début des années 50, 55, 60, etc., où les choses vont changer. Mais donc ça, c'est une particularité française, et c'est là-dessus qu'on devrait travailler, je trouve, en effet. Parce que des musiciens, par exemple, les cinémathèques, voire des radios comme France Culture, vont rendre hommage souvent à des tas de cinéastes, y compris à des cinéastes qui peuvent être considérés comme des cinéastes de série B. Mais le jour où vous aurez un véritable hommage en groupe à Jean-Jacques Grunewald, qui était, selon Dutilleux, l'un des plus grands organistes de France, et un des spécialistes de Bach à l'orgue, et qui a écrit les deux premières musiques sublimes des films de Bresson, Les Dames du Bois de Boulogne et Les Anges du Péché, qui a écrit 5 films pour Becker, qui a écrit énormément de films formidables. C'est un nom qui est, il n'est jamais mentionné. Hein. Donc il y a des tas de gens comme ça sur lesquels il serait intéressant d'aller exhumer. J'essaye de le faire dans le film. Moi, j'ai toujours accordé une importance énorme à la musique. Et j'ai toujours eu un rapport formidable avec les compositeurs, de tout ordre, hein, de tout ordre, dans tous les domaines. De jazz, j'ai eu des musiciens de jazz comme Henri Texier et Louis Clavis, j'ai eu des compositeurs classiques comme Antoine Duhamel, et puis des gens comme Philippe Sard, mais aussi des gens qui n'ont fait très peu de musique de film, comme Pierre Papadiamandis, qui est mélodiste merveilleux, qui est l'homme qui a écrit la plupart des chansons d'Eddie Mitchell. Et qui a fait la musique d'Une semaine de vacances, et que j'ai été chercher parce que je trouvais qu'il avait un sens des mélodies et un toucher pianistique formidable.
Pour parler vraiment là des films dans leur globalité, Bertrand Tavernier, vous avez fait des films de registres extrêmement différents tout au long du parcours jusqu'à ce jour. L'idée de départ d'un film, est-ce qu'elle est toujours différente aussi ? Est-ce que c'est une image, une idée, un sujet, une lecture ?
C'est toujours différent. D'abord, j'ai toujours envie de dire que j'ai eu envie de faire des films parce que tout d'un coup, j'avais envie d'apprendre et de comprendre quelque chose. J'ai toujours fait des films pour apprendre. Et parce que tout d'un coup, je tombais sur un fait. Ça peut être un chiffre. 354 000 disparus en 1920. Et tout d'un coup, je me dis, c'est quoi un disparu ? Et le film naît de ça. Je me pose une question, qu'est-ce que c'est qu'un disparu ? Est-ce que ça se retrouve ? Personne n'en parlait. Comme a dit Stéphane Audouin-Rouzeau, c'est un aspect de l'histoire qui n'avait jamais été évoqué par les historiens. Puisqu'il m'a crédité d'avoir 10 ans d'avance sur les historiens du monde entier avec mes deux films sur la guerre de 14. Mais voilà, donc ça peut partir là-dessus, ça peut partir d'un lieu. Quand je suis en train de vouloir faire un film sur la police, que je suis avec grâce à mon fils, que je travaille avec un type qui est enquêteur dans un groupe stup, pas la brigade du stup du Quai des Orfèvres, mais un groupe stup qui travaille à la première DPJ, qui est tout près de Saint-Philippe-du-Roule, qui est rue de Courcelles. Et je rentre dans une des Algéco qui sert d'abri au groupe. Et je vois 3-4 personnes qui travaillent là. C'est du matériel de récup. Il n'y a pas une chaise qui est pareille, qui pleut. Quand il pleut à l'intérieur. Et je me dis, alors c'est ça la priorité à la lutte contre la drogue. C'est là, c'est des gens qui travaillent dans des conditions que n'accepteraient pas des ouvriers sur un chantier. Et je me dis, mais j'ai jamais vu ça dans un film. Donc c'est parti là-dessus. Ça part sur une rencontre avec un directeur d'école maternelle, avec qui je dîne, et que je demande de raconter un truc, et il me raconte un épisode, c'était Dominique Sampiero, qui lui faisait encore venir les larmes aux yeux. Il demande à une dame, « Madame, vous n'avez pas payé votre cotisation pour la caisse des écoles ?» Puis il lui dit, « Vous savez, c'est pas beaucoup à l'époque, je crois que c'était 20 francs, et ça permet de faire toutes les sorties des enfants, de les emmener quelquefois pique-niquer ou aller dans un faire des sorties qui sont intéressantes. » Et elle dit, « Mais vous savez, avec 20 francs, moi je termine le mois, la dernière semaine. » Et elle dit, « Mais c'est pas possible. » Il lui dit, « Parce que vous avez 3 enfants avec 20 francs, comment vous pouvez pas y arriver ?» Et elle lui dit, mais si, elle devient un peu agressive. Elle dit, mais si, on y arrive très bien. Il suffit d'acheter du lait et des biscuits, des gros biscuits carrés. Vous les trempez dans du lait et on y arrive très bien. Et il me raconte ça et je sens qu'il est encore, c'est arrivé il y a 1 an et demi, qu'il est encore sur le coup. Et la nuit, je suis en train de pencher à ça. Je me dis, mais ça aussi, je ne l'ai jamais entendu dans un film. On n'est pas au Bangladesh, on est à 1 heure de TGV de Paris. J'ai là quelqu'un qui fait là, et je ne l'entends pas dans le discours des hommes politiques. Je ne l'entends pas, ça, ce truc. Et je l'appelle, le lendemain, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse d'écrire un scénario ? Il dit, mais moi, j'écris que de la poésie. J'ai jamais écrit, et il vivait à ce moment-là avec ma fille, qui lui dit, mais attends, on va y arriver. Tout de suite, elle lui dit, on y va, on parle là-dessus. Voilà, donc ça peut être ça. C'est rarement un truc prémédité. Chaque fois qu'on me dit, vous voudriez Bertrand, voilà, j'ai un truc pour toi, vous allez faire un sujet, je suis immédiatement glacé, et généralement, il n'y a rien qui sort. Parce que les gens, d'ailleurs, vous contactent, ils vous disent, ce serait bien que vous fassiez un film sur la résistance. On dit, mais c'est pas un sujet. C'est comme si vous me disiez, faites un film sur le XVIIe siècle. C'est pas un sujet. Voilà. Donc ça peut partir de là, ça peut partir d'une phrase dans une nouvelle, quand on me propose La princesse de Montpensier, il y a déjà un scénario qui a été fait par François-Olivier Rousseau, qui est pas mal, mais qui est pas terrible, et qui a surtout un truc qui manque, c'est que la princesse n'existe pas. Le rôle-titre n'est pas écrit, et pas bien. Et donc je relis la nouvelle de Madame de Lafayette, et je tombe sur une phrase dans laquelle Madame Lafayette écrit, ses parents voulurent la marier au prince de Montpensier, elle était amoureuse du duc de Guise, elle refusa si bien que son père dut la tourmenter. J'appelle un historien, du 16e, je lui dis tourmenter. Il me dit c'est torturer. Je lui dis, torturé ? Il me dit, oui, c'est torturé, c'est-à-dire fouetter, battre, enchaîner, jeter dans un cachot, c'est torturé. Il me dit, mais elle est noble. Il me dit, mais Bertrand, vous ne comprendrez pas cette époque si vous ne voyez qu'une jeune fille noble de 15 ans, 16 ans, n'a pas plus de droit qu'une jeune fille dans une société fondamentaliste musulmane, afghane, une fondamentaliste juive ou mormone. Il n'y a pas plus de droit. Elle n'a aucun droit. Et tout d'un coup, je me dis, mais j'ai pas du tout cette réaction dans le scénario. Dès que le père dit ça, le plan suivant, c'est le mariage. Et à partir de le moment, je dis à Jean Cosmos, mais il faut qu'elle refuse et que son père doit au moins lui cogner dessus, la menacer. Et d'un seul coup, l'envie de faire le film est partie du mot tourmenté.
Alors une fois qu'il y a ce point de départ, si on séquence un peu les différents temps de fabrication d'un film, il y a le repérage. Oui. Notamment, être sur les lieux où l'on va filmer, les choisir.
Ça, c'est. Je passe un temps très long sur le scénario pour pouvoir être très libre au tournage et pouvoir quelquefois le changer, justement pas pour que ce soit du carcan. Je n'arrive pas, pour moi, bien que j'admire beaucoup de ces films, à comprendre comment des gens comme Autant Lara pouvaient tourner. C'est-à-dire, le scénario était prêt, ils faisaient une sorte de storyboard, ils ne construisaient, alors qu'ils n'avaient fait aucune répétition, que ce qui était nécessaire pour la scène, avec un œil formidable. Mais je lui disais, mais si les gens veulent marcher plus vite, ils ne marcheront pas plus vite. Bon, moi, j'arrive pas. Donc j'ai besoin de trouver un décor, de m'en inspirer. Et je peux passer des semaines pour trouver le champ de bataille de la princesse de Montpensier. C'était très, très dur. Parce que là, je veux avoir ça. Je veux que ce soit un décor qui soit excitant et qui me permette... Je sais que je vais avoir 200 figurants, là où il en faudrait 1000. Et je sais que si je trouve le décor que je veux, je peux me débrouiller avec 200 figurants. Si j'y a des collines, des arbres, des trucs accidents, une rivière, si j'y a plein d'accidents de terrain qui permettent de jouer avec le nom. Je pense qu'il y a une chose ensuite, je suis vraiment fier, c'est que je suis vraiment fort pour faire des films qui paraissent beaucoup plus riches qu'ils l'ont été. Mais parce que c'est tout d'un coup, c'est de tout trouver sur le plateau. Ça, c'est la leçon que j'ai appris de certains metteurs en scène américains. D'être très imaginatif et de se dire on va arriver à faire une scène de bataille et avec alors qu'on n'a pas du tout tous les moyens pour le faire.
Mais comment est-ce que vous définissez, Bertrand Tavernier, les grands choix formels selon les films? C'est-à-dire qu'effectivement, on ne filme pas L627 comme La princesse de Montpensier, pour citer ces deux films que vous avez évoqués. Est-ce qu'il y a aussi, là, peut-être un apport des arts plastiques, de la peinture, de la photographie?
De la peinture, non. Je me suis toujours méfié. Je regarde beaucoup de peintures, quelquefois, pour comprendre... Par exemple, je regardais beaucoup les peintures de Hogarth pour comprendre l'atmosphère des intérieurs, mais aussi comment ils étaient éclairés. Je trouve que recopier la peinture est un danger. Je trouve fige énormément de films. Tout d'un coup, j'ai l'impression que ça leur donne un vernis culturel, mais ça fige. On voit que les gens ont dû passer des heures pour mettre l'objet, la lumière, la tache de couleur. Mais je
ça
trouve
peut donner une palette de couleurs, quand même.
Non, la palette de couleurs, ça peut tout d'un coup, il y a des couleurs qui vont tout d'un coup apparaître et qui vont être intéressantes, mais qu'on trouve aussi qui vont surgir si on se pose des tas de questions sur, par exemple, comment est-ce que les gens s'éclairaient. Tout d'un coup, ça va. Je me souviens que Alain Chocard, qui fait des recherches sur Conan, dit « Est-ce que tu sais que à Bucarest, il y avait, dans beaucoup d'endroits, il y avait l'électricité dans des tas de demeures et des tas de bâtiments avant Paris ?» Donc immédiatement, c'est une chose intéressante, parce qu'on pensait que tout était au gaz. Non, ça change la dominante de couleur. C'est de discuter des choses. Par exemple, de ne pas recopier les miniatures du Moyen-Âge pour Béatrice. Et là, je parle avec quelqu'un que j'aime énormément, qui est Claude Duneton, qui a été un inspirateur de beaucoup de choses, et qui me dit, mais Bertrand, il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que qu'est-ce que c'est que ces miniatures du Moyen-Âge? Les gens se font peindre dans leurs habits les plus beaux. Donc, il dit, c'est exactement... Vouloir les reproduire dans un film est absurde. C'est comme si vous filmiez la vie des paysans dans la terre de Zola en prenant comme modèle de costume les photos de mariage. Et que vous les mettiez dans le travail de terre. Moi, j'avais dit à ma costumière pour la princesse de Montpensier, je ne veux pas de fraises. Je trouve que dès qu'il y a un film sur cette époque, sur Henri II, sur Henri III, les gens ont des fraises. Et c'est impossible de faire du cheval avec une fraise. C'est impossible. La fraise, c'est comme un smoking. Sans doute, on le portait dans un truc. J'ai dit, on va faire un... Je ne sais pas si c'est juste. On va mettre aucune fraise, parce que je ne vois pas comment les gens, ils sont engoncés, ils ne peuvent pas jouer les acteurs avec ça. Donc je pars dans une réaction contre la peinture. Mais la peinture, là, tous ces tableaux autour d'Henri III et tout ça, c'est des tableaux du 19e. C'est le 19e qui est en train de réinterpréter le 16e siècle. C'est Duneton qui m'a dit « toujours discuter les sources ». Et ça donnera des idées dramaturgiques qui sont importantes. Mais d'essayer de voir à travers les pratiques quotidiennes où est-ce qu'on mettait une robe quand elle était mouillée dans un château, quand il n'y avait pas d'armoire. Donc on a cherché pas mal de temps. On ne pouvait pas le mettre dans un coffre où ça allait moisir. Et c'est la créatrice des costumes, Jacqueline Moreau, qui m'a dit, en Afghanistan, où j'ai fait un film, ils les pendent devant la cheminée. Et j'ai dit, on va faire ça. Et alors, j'ai énormément d'approbation des médiévistes. Il n'y a aucune preuve visuelle que c'est juste, sauf que ça paraît hyper juste qu'on mette des habits comme ça, avec des grands... Ça ressemblait, du coup, j'ai dit, tiens, j'ai l'impression d'être dans une mise en scène de Planchon, d'un seul coup, où il met tout le temps des draps qui pendent. C'est formidable.
Donc la méthode Tavernier pour l'écriture, c'est une imprégnation maximale du sujet, mais avec une méfiance absolue des sources, pour les sujets plus anciens. Pour les sujets contemporains, c'est... La connaissance le plus possible de
de rentrer à l'intérieur. Moi, j'ai une chose dont je suis fier maintenant quand je peux regarder mes films, c'est que toutes les personnes qui étaient les premières concernées les ont toujours trouvées extrêmement justes. On a près de 2000 lettres et témoignages d'instituteurs sur Ça commence aujourd'hui, de gens qui disent que le film est leur pareil. Tous les policiers ont dit que L627, et ça continue, c'est le film numéro un pour tous les policiers cinéphiles. C'est arrivé récemment. Je trouve ça assez marrant. Mais tous les policiers disaient que c'était, je crois que j'arrive Tommy Lee Jones m'a dit que c'était la première fois qu'on avait capturé l'essence de la Louisiane comme ça, comme film. Les metteurs en scène américains n'y sont jamais arrivés. Dans cette exploration, j'ai l'impression que j'arrive à attraper des choses, que j'arrive à m'imprégner. Mais je travaille énormément là-dessus. Et même en utilisant dans ma tête des choses qu'on ne voit pas dans le film. Il me disait, Bertrand, vous ne comprendrez pas la Louisiane si vous ne vous rendez pas compte que le passé, on peut le toucher du doigt, qu'il est là. Que le jardin de la maison où vous habitez, à New Iberia, j'y ai joué quand j'étais adolescent. Il y avait un chêne, et dans ce chêne, il y avait encore les fers qui étaient dans le tronc, incrustés dans le tronc. C'était les fers où on attachait les esclaves pour les vendre à Jean Lafitte, autre héros de là, qui, entre parenthèses, était un esclavagiste forcené. Là, c'est pour ça qu'on lui a donné une rue. Ce passé, le passé de l'esclavage, pour moi, il n'était pas livresque. Il était là. Voilà, donc de m'imprégner de ça. De m'imprégner de tout ça. Je trouve que c'est hyper important. Et j'avais été très touché quand tout d'un coup, une des femmes flics qu'on avait beaucoup utilisées, qui nous avait aidées pour L627, quand elle a vu le film, elle a dit, Bertrand, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est que tu m'as fait prendre conscience de choses. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'avais pas réalisé. Et toi, t'es resté 4 mois avec nous. Et tu as attrapé ce sentiment de solitude dans un boulot qu'on fait à plusieurs. Il dit, comment tu as fait pour attraper ça? Il dit, parce que c'est pas un truc qu'on a dans une usine. Il n'y a pas un sentiment. Les ouvriers, mon père était ouvrier d'usine, il n'a jamais eu un sentiment de solitude. Nous, on a très souvent un sentiment de solitude. Alors qu'on travaille complètement les uns sur les autres. Et il dit, tu as attrapé ça. Je lui dis, mais ça, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir comment ça s'est fait, ça.
Imprégnation plus empathie, sans doute Bertrand Tavernier. Mais alors, à quel moment vous commencez à travailler avec vos comédiens et de quelle façon?
tôt, souvent, quand je peux les choisir tôt, ce qui m'arrive assez fréquemment, pour, notamment pour Noiret, sur la vie et rien d'autre, on a commencé très tôt à en parler, à définir, puis j'écoutais. J'ai toutes sortes de méthodes, ça change selon les films. Impossible d'avoir de méthode avec Louis Ducreux, parce qu'il n'avait jamais fait de cinéma par un film, alors lui, il fallait l'entourer pour capter tout ce qu'il pouvait m'amener, qui était inouï, mais en même temps, je ne pouvais pas le bloquer avec des répétitions, je ne pouvais pas le bloquer, il n'était jamais dans ses marques. Alors j'avais dit, s'il n'est pas dans ses marques et que c'est un problème pour Bruno de Kayser, j'avais dit à Geneviève Mich et à Michel Aumont, vous faites comme si vous aviez peur qu'il soit fatigué et vous l'épaulez et vous l'amenez là où il faut. Et vous vous en servez pour votre personnage. Et par exemple, j'avais conçu un plan qui était vraiment compliqué pour que lui et Sabine Azéma rentrent à un moment pour danser dans la guinguette. Et c'était un plan qui partait sur ma fille qui jouait. Et puis il y avait un pêcheur à la ligne qui jetait un poisson. Il venait, il y avait toute une scène comme ça. Et puis quand la caméra revenait, on devait arriver sur Louis Ducreux qui rentrait dans le champ en dansant. Et la première prise, pas de Louis Ducreux. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé, Louis ? Il dit, j'attendais d'être sur le bon pied par rapport à la valse. Parce qu'il était musicien. C'était un musicien, il avait composé, il y a une polka qu'il a écrite qui est dans le film. C'est un musicien, c'est un compositeur de chansons. Toutes les chansons des films de Max Ophüls, les paroles sont écrites par lui, on l'oublie. Et tourne mes personnages, tourne la vie, tourne les jours, c'est Louis Ducreux, qui est l'auteur d'une des plus belles chansons, La rue s'allume, qui est une des plus belles chansons françaises jamais écrites. Donc, je lui dis, mais c'est pas important, Louis, que vous soyez pas tout à fait... Il me dit, Pierre Fresnay dans Les Trois Valses n'était jamais sur le bon pied. Hein ? Il était toujours à côté au point de vue... Et je dis, je n'y arriverai pas. Et je dis à Sabine, tu as compris un peu le plan, Sabine, alors aide-moi. Aide-moi. Et donc, deuxième prise, hop, il rentre parfaitement avec Sabine dans les bras et tout. Et à la fin de la journée, il vient me dire, dit Bertrand, je suis assez embêté. Il y a un truc qui est arrivé qui n'est pas drôle. Jusqu'à présent, le tournage avec Sabine, c'est une merveille. Elle était d'une gentillesse. Elle était une... Mais là, j'ai découvert quelqu'un de très, très dur. Extrêmement. Il n'avait jamais réalisé que s'il était dans le plan, c'était grâce à elle. Voilà. Donc, c'est d'utiliser toutes sortes de choses. Mais aussi d'écouter quand tout d'un coup j'ai une idée sur une scène et que je l'explique à Noiret et à Sabine pour La vie rien d'autre. Et Noiret me dit, écoute, avec Sabine, on a pensé à quelque chose qui est très différent. Moi, je voulais qu'il soit une scène intime, qu'il soit autour d'un point d'eau. Puis j'avais élaboré un long mouvement de caméra. Il m'a dit, non, voilà, je sors et au moment où je me lève, je marche. Et il dit tout son dialogue en marchant très, 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 très vite. Et immédiatement, je me dis, c'est bien meilleur. Il a raison. Donc il faut toujours oublier ego, tout ça, hop, il faut dire. Et je dis à Alain Chocard, combien on a de rails ? 30 mètres. Bon. Avec le zoom, dit Alain, si on ne verra pas que c'est un mouvement de zoom, je peux en faire 40 mètres. Je dis à Philippe, toi tu viens de faire 200 mètres. Donc je veux la même chose sur 40 mètres. Il me dit, il n'y a aucun problème. On refait là, hein. Il fait deux arrêts dans le texte, et les deux arrêts, ça rend le texte encore meilleur. Les deux moments où il s'arrête, tout d'un coup, voilà. Voilà, c'est un travail comme ça qui est, je trouve, formidable, tout à fait excitant.
Alors justement, quand l'acteur n'est pas dans le cadre, c'est assez évident, mais comment est-ce que vous savez sur un tournage, Bertrand Tavernier, qu'une prise est bonne ? Alors, vous pouvez passer à la scène suivante, donc.
D'abord, j'en fais assez peu. Je tourne des plans souvent très longs. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de montage dans les films. Je tourne vraiment ça. Souvent, je ferme les yeux et j'écoute. Et alors, j'ai vu que c'était la méthode Pagnol. Il se mettait en le camion de son, il ne voyait jamais. Hein, il écoutait. Et très souvent, c'est en écoutant. Et puis, il y a maintenant, mais c'est aussi un piège, il y a les vidéos sur le plateau. qui fait que tout le monde, tout d'un coup, peut les regarder et tout d'un coup, peut donner son avis, ce qui est vraiment, c'est quelquefois un mal nécessaire. C'est, je sais pas, vous le sentez, mais je vous dis, parfois c'est à l'oreille que je vais trouver, parce que ça vous donnera le rythme des mouvements. Alors après, j'ai suffisamment de confiance dans la personne qui cadre pour me dire, pour moi c'était plus fluide, c'était plus intéressant, j'ai même trouvé un truc qui était là, voilà. Et on ne peut juger que sur une sorte d'impression, mais surtout j'essaye de ne pas avoir à choisir entre 18 prises, d'essayer d'en avoir deux bonnes, trois bonnes, et qu'elles arrivent vite.
Alors du coup, je passe à l'étape suivante, celle du montage. Est-ce qu'il y a une méthode, là encore, ou est-ce que, comme vous le disiez, comme vous ne faites pas 18 prises comme certains autres, ça va relativement vite pour vous ?
Alors, le montage, j'ai une méthode, c'est-à-dire que je le commence très tôt. Il y a beaucoup de gens qui commencent le montage une fois qu'ils ont fait le film. Moi, je le fais dès la première semaine, et je veux assister très tôt à des bout de montage, je vois tout d'un coup si ça marche, si ça marche pas. Et ça m'a fait très souvent modifier les scénarios.
Ah oui, pendant le tournage. Donc,
pendant le tournage. Ouais. Ça m'a fait réécrire, ajouter une réplique, et tout d'un coup changer la fin d'au moins deux, trois films. De un dimanche à la campagne, d'une semaine de vacances, je voyais quand même pas mal de scènes montées, et j'ai dit, mais la fin ne marche pas. Il faut qu'on change de fin. Ça ne marche pas. Il s'est passé des choses qu'on n'avait pas prévues. Entre Lanvin et Nathalie Baye, il y a un rapport qui est vraiment très, 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 très fort. Et la même chose, j'avais tourné la fin d'un dimanche à la campagne. J'en étais pas content. Et je la vois, et je vois ce qui précède, et je me dis, mais c'est la fin du livre, et c'est une fin qui nous ramène à des problèmes familiaux. On doit en être à un moment où on en a fini avec ça. Au moment où Monsieur l'amiral ramène sa famille à la gare, il n'y a plus de problème avec la famille. Le problème, il doit être ailleurs, il doit être dans la création, il doit être dans son tableau, dans ce à quoi il pense, dans sa vie, mais pas... Parce que la fin de Bost, elle était amusante, elle était ironique. Il croisait un voisin qui lui demandait « Comment s'est passé votre dimanche, monsieur l'amiral ?» Et il disait « Très bien, j'ai vu ma fille. » Et il oubliait complètement qu'il avait vu aussi son fils et ses enfants. C'était une fin. Mais je trouve qu'on était dans un moment du film où il fallait aller au-delà de ça. Donc j'ai improvisé toute la scène dans l'atelier où le personnage de monsieur l'amiral se demande ce qu'il doit faire, regarde son tableau qui a été critiqué par sa fille, décide de le mettre au clou, prend une toile blanche et regarde la toile blanche. Voilà, c'est une chose que j'ai trouvée parce que j'étais en train de monter le film. Donc c'est ma méthode, avec toujours des moments de doute épouvantables, des moments de doute effroyables. Alors on disait toujours avec mon monteur qu'il y avait la bobine 7, qui était toujours la bobine maudite. Parce que comme mes films n'ont pas une vraie structure narrative, d'intrigue, il y a toujours un moment où il y a un flottement, parce que je n'ai pas de point d'appui scénaristique fort. Et donc, on cherche, on tâtonne là-dessus, mais des moments de doute affreux. Des moments de doute sur Conan. À un moment, j'ai traversé une période où je devenais injuste pour la monteuse. Et à un moment, Claude Chabrol est venu dans le montage. Je lui dis, Claude, écoute, je suis désespéré, je trouve que j'ai tout loupé. Il me dit, attends, tu me laisses tout seul, je vais regarder. Il a regardé deux bobines, il est sorti, il m'a dit, t'es complètement dingue. Ce que j'ai vu, c'est absolument formidable. C'est formidable. Voilà, j'ai été sauvé un moment par Chabrol, par Claude. Mais le tournage avait été tellement dur de Conan qu'il y a un moment où l'énergie qu'on a mis dans le tournage pour arriver à surmonter l'enfer de la Roumanie, vous le payez. Vous le payez. Vous le payez d'un coup et vous le... Ça, c'est pas des trucs qu'on apprend dans les écoles de cinéma, ce genre de choses. C'est un moment, comment vous vous débrouillez avec ce genre de choses? Comment vous arrivez à vous sortir de problèmes comme ceux que j'ai pu rencontrer en Roumanie, ça, et arriver à s'en sortir en faisant un film qui va pas dépasser, qui a été tourné dans les temps, alors que ça a été un cauchemar.
Justement, vous évoquiez Chabrol, Bertrand Tavernier, mais je me demandais s'il y en a été des collaborateurs, des collaborations, des regards extérieurs, parce qu'on n'a pas dit, mais les scénarii, vous les avez quasiment tous coécrits.
Tous.
Un tournage, c'est évidemment une aventure collective. Le montage.
Oui, il y a des gens à qui je le montais, je sautais. Pendant longtemps, Claude Sautet, ça a été mon mentor, c'est l'homme à qui je montrais. Donc, il y avait toujours un petit truc. Il dit, non, tu devrais couper ça. Ça c'est un truc. Il avait un œil incroyable, un esprit de synthèse formidable. Je n'étais pas le seul à faire Truffaut, montrait tous ses films à Sautet. On était un certain nombre. Je pense que Claude a joué un rôle souterrain extraordinairement important, y compris chez des gens qui semblaient, au départ, dans la presse, ne pas l'apprécier, et qui étaient absolument... la correspondance, les lettres que Truffaut écrit à Sautet sont très 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 fortes dans l'admiration qu'il éprouve pour lui, pour ce qu'il dit. Donc Sautet, c'est vraiment... Il y avait des gens aussi comme Alain Corneau, à qui je montrais les films, Alain Corneau, Claude Miller, il y avait quelques personnes qui jouaient un rôle important, mon ami Pierre Rissian, qui a un œil aussi très fort et qui est souvent un critique impitoyable. C'est très difficile de rester tout seul dans ce moment, surtout que les pressions deviennent de plus en plus fortes maintenant.
Pour autant, juste avant que le film ait sa propre vie, qu'il soit livré au public et à la critique, comment est-ce que vous décidez il faut s'arrêter, que le film est achevé, qu'il faut plus y retoucher? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est évident?
Non, il y a un moment, je sais pas, on sent que, voilà, on l'a fait, il faut y aller, il va falloir affronter les gens extérieurs. Les doutes, ils viennent quelquefois, un an, deux ans, trois ans après, bientôt. Mais d'ailleurs, comme Claude Sautet, qui continuait de couper ses films quand il les faisait sortir en DVD. Ça vient tout d'un coup, mais j'avais discuté une fois avec Billy Wilder qui disait, vous savez, on trouve tout d'un coup une autre idée de fin, généralement 6 ans après avoir fait le film. On se dit, mais pourquoi on n'a pas eu cette idée-là? Et moi, je m'étais dit ça pour le juger assassin. Je dis, mais c'est 5 ans après que je trouve une idée. Là. Alors, il ne faut pas se laisser contaminer par ça, mais c'est un...
Vous avez eu envie de remonter
le film? J'ai quelquefois fait des petites coupes. J'ai fait des petites coupes ici et là, oui, sur des choses que j'aimais pas, dans la mort en direct. Il y a un moment où on pense, à tort ou à raison, que tout est achevé.
Puis il y a un moment, un mercredi, où le film sort. Vous êtes dans quel état, vous, à ce moment-là?
Horrible. Les premiers films, j'allais me planquer, m'enfermer, voir un film à la Cinémathèque ou disparaître. Et là, maintenant... Il y a une espèce de cérémonie où on va se retrouver le soir chez le distributeur et ça. Et dans tous les derniers films, j'ai décidé de pas y aller.
Parce que là, on a les premiers chiffres qui vont donner les tendances.
Alors ça dépend. Quand il y avait, l'atmosphère peut être lugubre. C'est lugubre, ça peut être terrible. Et surtout, il y a quelques distributeurs. Quand vous aviez des gens comme Jean Labadie, qui mettait une chaleur humaine formidable, c'était magnifique. Mais j'ai eu connu des gens à un moment, une époque à Studio Canal, qui était déjà tellement réfrigérant avant ça, qu'on dit, je vais pas passer une soirée à ce qu'ils me disent, et puis ils regardent des chiffres, puis on les voit murmurer les uns avec les autres et tout. J'ai gardé un souvenir assez pittoresque du dîner qu'on avait fait pour le premier mercredi d'un dimanche à la campagne, avec Peset père, le père de Richard, il y avait Alain Sardes, il y avait Louis Ducreux, une copine de Louis Ducreux et moi. Et l'atmosphère était un peu lourde, parce que on amenait des nouvelles et Peset nous disait, on me dit qu'au Colisée, le nombre de gens avec des cannes et en petite voiture était absolument énorme. Et les ouvreuses se plaignent qu'il y a un nombre de vieillards. D'ailleurs, entre parenthèses, l'un des crimes, je le dis dans une salle Gaumont, l'un des crimes faits par Gaumont, ça a été de supprimer cette salle du Colisée, qui était la seule salle de plein pied.
Maintenant, il y a des marches partout.
Oui, ce qui veut dire que tout un public y allait. En plus, c'était une salle mythique pour les films français. Tous les Renoir, les Guitry, les Grain étaient sortis là. C'était une salle où le cinéma français... Et surtout... Pour tous les gens, les gens du 16e arrondissement, du 8e arrondissement, tout ça, c'était une salle formidable parce que il n'y avait pas d'escalier. Non. Et moi, j'ai bénéficié, je veux dire, j'ai eu une tripotée de vieillards. Et donc, il y avait une atmosphère de déprime sur ce dîner. Et après, le film n'a cessé de monter. Et puisque chose inouïe qui se passerait plus maintenant, le meilleur rentrée, ça a été en quatrième semaine, où on avait doublé la première. Donc, tout d'un coup, c'était formidable.
Alors, quand même, il y a eu des belles soirées aussi, côté honneur, Bertrand Tavernier. Un lot de César assez conséquent, 2 fois meilleur réalisateur, 3 fois meilleur scénariste ou adaptateur, prix Louis Deluc, prix de la mise en scène à Cannes, grand prix du jury et Ours d'or à Berlin, BAFTA du meilleur film étranger. Bon, je m'arrête, la liste est longue. Oui. Comment est-ce que vous vivez ces récompenses? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres?
Je peux pas faire la personne qui dit qu'il s'en fout complètement, c'est pas vrai, c'est toujours, et ne serait-ce que pour les gens qui ont travaillé sur le film, que je trouve que c'est bien, et quelquefois le fait que il y a des choses qui m'ont échappé que je trouve qui étaient injustes. C'était injuste que j'ai pas la musique de Coup de torchon, parce que ce qu'avait écrit Philippe Sard était absolument formidable, et c'était injuste que des gens comme Marielle, qui étaient formidables dans le film, ne l'aient pas. Bon, le fait que Thierry Lhermitte n'ait même pas été nommé pour les Césars, c'est moi, je suis blessé pour Thierry, parce que je vois ce qu'il a donné, je suis très content que Niels gagne à Restrup, mais bon. Il y a des choses qui me touchent, il y a des moments où je suis étonné par les votes sur la musique, parfois, des gens dans les séries. Je suis étonné quand je vois que... Mais d'ailleurs, j'en parle avec Georges Delerue, qui me dit « Je ne comprends pas que j'ai un César pour Le Dernier Métro. J'ai fait 8 minutes de musique, et c'est que les gens l'ont donné à Mon Amant de Saint-Jean, qu'on entend tout le temps. Hein ? Et le bal de Vladimir Kosma, c'est incroyable d'avoir le César de la musique pour le bal. C'est des trucs où Diva, où on entend un opéra tout le temps. Il y a c'est des
pour
trucs.
La Wally, oui. Hein? C'est pour la Wally, c'est
oui.
Pas pour Gabriel.
Alors,
Hamed, là.
Ce que j'ai trouvé formidable, c'est un jour j'avais eu 2 nominations pour les Oscars pour Autour de minuit et Herbie Hancock a gagné et Dexter Gordon qui était nommé l'a pas eu. Mais il m'a appelé, il m'a dit Bertrand, Martin Scorsese m'a fait parvenir une lettre de Marlon Brando. Qui dit que c'est la première fois en 15 ans que lui, Brando, a eu l'impression qu'il apprenait quelque chose sur le jeu de comédien en voyant ce film. Et il ajoute « After that, Lady Bertrand, who needs an Oscar ?» Après cette phrase, il a besoin. Et ça, c'est absolument formidable.
Oscars, ouais.
Et je dois dire que parfois... Alors c'est facile à dire, surtout quand ça revient, mais quand tout d'un coup quelqu'un dans la rue traverse et puis vient me dire, vous savez, dans La Brume électrique ou L627 ou Ça commence aujourd'hui, ça m'a changé ma vie, ça m'a bouleversé. C'est aussi important qu'un prix. C'est que tout d'un coup, quand, je dis quelqu'un qui... Alors quand c'est quelqu'un qui est un acteur, il veut travailler, mais quand c'est quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le métier, puis surtout qui traverse un autobus pour vous dire, vous savez, voyage à travers le cinéma français, c'est que ça a été un voilà, c'est des choses qui vous touchent énormément. Je suis très sensible à ça, pas à l'éloge, mais je sais pas que quelqu'un, que quelque part, d'avoir réussi à toucher quelqu'un suffisamment pour que il éprouve le besoin de vous le dire. Qu'il y a peut-être qui sent que moi, mon cinéma, c'est un cinéma de partage. C'est un cinéma où j'ai envie de convivialité, tu vois, et qui me rend, il me rend ça. Il me rend un peu, et ça, c'est très réchauffant. Parce que la cérémonie elle-même des Césars, faut se la fader. Hein. C'est un moment quand même. Ça veut... Je sais pas, c'est Suran qui disait le fait d'avoir une biographie vous découvre, qu'on puisse écrire sur vous une biographie vous découvre d'en vivre, de vivre votre vie, vous dégoûte. Là, le fait de voir subir plusieurs fois la cérémonie des Césars, ça vous dit que vous n'avez pas très envie de concourir. Il y a eu des moments quand même formidables. Il y a des moments. Mais pareil aux Oscars. Pareil aux Oscars, où c'est quand même parfois... Il y a des trucs marrants, comme la phrase de Billy Wilder quand ils étaient avec Houston, et je crois qu'ils étaient... Et Kurosawa, qui devait... Ils étaient tous les trois pour donner le César du meilleur metteur en scène, et il y en avait un qui devait donner les titres, l'autre les metteurs en scène, et le troisième qui devait ouvrir l'enveloppe. C'était Kurosawa. Puis il s'en mêlait, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Et Wilder qui lui dit « Vous étiez plus rapide à Pearl Harbor !» Ça, c'est formidable. Ça a failli déclencher un incident diplomatique. Là, ça, c'est un truc qui illumine une cérémonie.
Ah oui, ça vous fait votre soirée. Hein, sans problème.
Hein, c'est absolument formidable, ça. Je trouve que c'est formidable pour certains de vos collaborateurs qui en ont besoin, qui vous savez. C'est une reconnaissance sur le son, pour les chefs opérateurs, pour des gens qui sont le reste du temps qui sont dans l'ombre.
Cinéma de partage, oui. Le travail d'éditeur, Bertrand Tavernier, pour conclure cette masterclass, une question. Parce que ce que vous faites notamment dans Voyage dans le cinéma français, c'est de rendre hommage et de permettre de découvrir, de redécouvrir. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous?
Oui, parfois. Puis parfois, parfois je pense que j'ai eu une vie tellement formidable que bon, j'espère que je laisserai quelque chose. Mais oui, on a envie de laisser une trace quand même. On a envie. Mais en même temps, j'ai une vie merveilleuse. J'ai fait ce que j'ai voulu tout le temps. Je n'ai fait que les films que j'ai voulu faire. Ce qu'ils disent, je le revendique toujours. Il y en a aucun dont on peut dire que je considère que ce qu'il y a est complètement démodé ou c'est daté. Je trouve que plusieurs de mes films sont... L627, c'est hyper actuel. C'est toutes les revendications. La police était déjà dans ce film. Toutes. Et sur l'histoire de l'école maternelle, tout ce qui se passe et la façon dont on est en train de détruire l'école maternelle en France, là, c'était dans le film. Détail en passant, j'ai vu qu'une grande enquête sur la médecine scolaire... C'est un truc que je disais dans le film, où à un moment on disait l'extraordinaire misère, et Ségolène Royal m'avait promis après ça que ce serait changé. Ce serait changé. Elle m'avait m'a dit je veux engager 2000 médecins. Je l'ai dit à plein de journalistes, je lui ai dit vous pouvez pas l'appeler de temps en temps pour lui demander où ils sont. Hein, où ils sont. Voilà, donc je trouve que les films, ils continuent à être là, bon, je me pose ça. Mais j'ai eu envie de faire ce voyage parce que, oui, j'avais envie de remercier des gens qui m'ont donné des joies immenses à un moment où on a un peu tendance à être dédaigneux vis-à-vis de, un peu de tout ce qui est français. Comme diraient des gens qui pratiquent le français, c'est le French bashing. Et un peu dédaigneux vis-à-vis du cinéma, là. Ce cinéma classique qui est un peu abandonné par la télévision publique, qui ne le fait plus. Et je trouve qu'il n'y a plus tellement d'émissions sur le cinéma. Il y en avait plusieurs à France Inter. Pas seulement sur l'actualité. Des émissions où on allait interviewer des metteurs en scène.
Merci infiniment.
Merci Arnaud. Merci, c'était un plaisir.
C'était la masterclass de Bertrand Tavernier avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Vanessa Nadjar.